France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir, pour la dernière de la saison, une femme qui a décidé de donner la parole aux plus petits, aux plus jeunes, qu'on oublie parfois d'écouter. Marie-Rose Moreau est professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, directrice de la maison de Solène à l'hôpital Cochin à Paris. Elle vient de publier chez Odile Jacob « Pour le bien-être et la santé des jeunes », un livre plaidoyer pour que ce sujet devienne une priorité. Car en France, plus encore qu'ailleurs, une part non négligeable des adolescents vont mal. On tentera d'ailleurs de comprendre pourquoi. On parlera aussi du parcours de notre invité, car son itinéraire personnel explique en grande partie ses choix professionnels ainsi que ses engagements. Elle qui a créé le concept de psychiatrie transculturelle. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisé par Marie-Annie Crimbaud, l'actualité de la semaine comme tous les vendredis. Le reportage de la semaine, signé Benjamin Hilly, nous conduira au lycée Jacques Feder d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, où des élèves ont pris la plume pour dire leur désarroi face aux conditions dans lesquelles ils étudient. Juste avant 19h, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, rencontre avec des élèves vétérinaires qui soignent les animaux et notamment les chiens des sans-abri à Lyon. À 19h20, au téléphone sonne, folie des vide-greniers, engouement pour les achats d'occasion, succès des sites de revente en ligne. On se demandera si les Français ne sont pas en train de changer leur façon de consommer. Alors appelez-nous, surtout si vous êtes un adepte des achats de seconde main. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Marie-Rose Moreau.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous sur France Inter. Vous êtes donc pédopsychiatre, professeur de psychiatrie. Ça fait bien longtemps que vous vous occupez des enfants, des adolescents. Aujourd'hui, vous lancez une sorte de SOS dans ce livre que vous venez de publier avec Jean-Louis Brison, qui est inspecteur d'académie honoraire. Vous insistez sur une chose, le mal-être de la jeunesse en France est plus répandu qu'ailleurs et il prend des formes encore plus graves.
Oui, effectivement. Alors, c'est un livre écrit Santé et Éducation nationale. C'est avec Jean-Louis Brison. C'est important. C'est un livre collectif. Il en a encore plus de, il a plus de force encore. Oui, le malaise en France de nos jeunes. Alors, prenons la tranche d'âge des adolescents. Il faudra aussi parler des bébés et des enfants. Mais pour la tranche d'âge des adolescents, qui est celle qui, 11-25 ans, qui nous a intéressés dans ce livre, en gros, 10% de cette tranche d'âge présente une souffrance psychique qui peuvent prendre des formes différentes, qui s'expriment par le corps, qui s'expriment par la pensée, par la perte de l'élan vital, par la difficulté ou la perte de l'envie d'apprendre, d'être avec les autres, par la perte d'envie d'être, de devenir adulte. Et donc, ça prend des formes multiples. Parfois, on s'endort en prenant des médicaments ou d'autres drogues. Donc, il y a des formes multiples. Mais 10%, 8 à 10% en fonction des études, mais disons autour de 10%, c'est énorme. Si on se compare aux autres pays européens, par exemple la France, l'Italie, eh bien on est bien au-dessus, l'Espagne ou l'Italie, on est bien au-dessus de l'Espagne ou de l'Italie. Si on se compare à l'Europe du Nord, eh bien là aussi, on est au-dessus. On fait partie de ceux, nos adolescents, nos jeunes gens, les jeunes adultes de notre société sont ceux qui, en Europe, envisagent avec le moins de bonheur et le moins de légèreté le fait de devenir adulte et de prendre des responsabilités, de traduire des engagements et de traduire des idéaux.
C'est grave. Et ce que vous dites, c'est que les réponses ne sont pas à la hauteur.
Oui, c'est grave, c'est tragique. En plus, ça, pour le coup, nous ne sommes pas les premiers à le dire. Tous les rapports, toutes les études épidémiologiques le montrent depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc ça, c'est un fait. Et nous n'en prenons pas à la mesure, collectivement, politiquement, techniquement. Nous n'agissons pas, alors que par ailleurs, un certain nombre d'actions sont possibles. L'objet de ce livre, de les lister, de les mettre
vous
en œuvre.
Vous faites des préconisations d'ailleurs.
Nous faisons 10 préconisations concrètes. Nous en avons et les moyens théoriques et la possibilité de mettre en œuvre ces actions. Alors nous avons d'ailleurs tout particulièrement centré autour de l'école, parce que l'école, l'université, les formations, dans tous les endroits où ces jeunes gens apprennent et se forment pour des choses d'avenir,
C'est des endroits où on peut alerter, et peut repérer.
Alors c'est à la fois des endroits où se traduisent les malaises, mais aussi où se créent le malaise. Donc c'est pour ça que c'est si important d'agir dans ces endroits où par ailleurs il y a des professionnels très sensibilisés à la question du bien-être et de la santé des jeunes.
Alors Marie-Rose Moreau, vous le dites, il y a un problème de prise de conscience de l'ampleur du problème, mais il y a aussi un problème de manque de moyens. Vous le dites, les soins en France sont largement insuffisants.
Alors oui. Et pourtant, il est dit depuis maintenant plusieurs années que... alors, on va prendre d'abord les soins, mais la question de l'école va se poser également. Mais commençons par les soins pour les plus fragiles et la prévention pour tous, hein, parce que les soins ne valent que s'ils sont pour tous. Les soins pour les plus fragiles d'entre ces adolescents, ceux qui vont présenter vraiment des symptômes, on va dire la psychiatrie d'une manière générale et tout ce qui va avec, puisque c'est très 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 collectif, et la pédopsychiatrie pour les plus jeunes, pour les mineurs, eh bien, alors que nous sommes la psychiatrie est considérée comme une priorité nationale, aujourd'hui encore aujourd'hui, on diminue les capacités de formation de cette pédopsychiatrie et de cette psychiatrie. Et pour prendre même l'exemple de mon service, on m'enlève des postes dans mon service. Mais comme dans...
Même à la maison de Solène, même à l'hôpital Cochin, au cœur de Paris.
Et oui, même au cœur...
Même chez Marie-Rose Moreau.
Même à la maison de Solène, même au cœur de Paris, on m'enlève un poste d'universitaire. Ce qui montre que il y a une dissociation entre... la prise de conscience, le discours politique et le discours collectif, et puis ensuite les décisions, les actions et le terrain. Et ça, premièrement, c'est tragique. Deuxièmement, ça a des traductions extrêmement concrètes pour les bébés, les enfants, les adolescents, leurs parents, les jeunes adultes.
C'est quoi ? C'est le désarroi des familles quand un adolescent va mal, par exemple, qu'il faut prendre un rendez-vous en urgence. Après, concrètement, ça veut dire quoi ? Il faut attendre des mois pour un rendez-vous ? C'est ça la réalité ?
Oui. Par exemple, encore une fois, prenons l'exemple de la maison de Solène, plus de 3000 adolescents par an qui consultent. À cet âge-là, la souffrance est une souffrance qui ne peut pas attendre, parce que d'abord il y a des risques très importants, et en particulier les risques de tentatives de suicide, hein, qui sont un risque majeur. Nous sommes encore là aussi, nous avons des ratios assez élevés. Ils se sont stabilisés ces derniers temps, mais ils sont très trop élevés. C'est tellement tragique, on peut pas attendre. Ça peut pas attendre un mois, deux mois. Bien sûr que non, ça peut pas attendre. Donc on imagine des tas de stratégies. Mais en réalité, il y a une nécessité minimale d'avoir des équipes, d'avoir des médecins, d'avoir des chercheurs, d'avoir des enseignants, parce que tout ça se fait collectivement. Pareil à l'école. À l'école, lorsque un adolescent fait une confidence à son prof de philosophie ou à son prof de technique et qu'il lui dit, je sais pas, j'y arrive plus, je ne sais pas, j'ai parfois, j'ai des drôles d'idées qui me traversent l'esprit. C'est quelque chose à prendre au sérieux, à hauteur d'adolescent. Ça peut pas attendre demain. Peut-être qu'il a aucune raison, mais on se suicide pas pour des raisons. On se suicide parce qu'on ne voit plus d'issue. Hein. Et donc là, à l'école, il faut agir. Il faut reconnaître la souffrance, la prendre au sérieux et agir. Tous les professionnels de l'école.
Ce qui est fou, Marie-Rose Moreau, quand on vous écoute, ça nous renvoie à ce qui se passe dans les services des urgences des hôpitaux, ce qui se passe dans le service public en général. On a l'impression que partout, les gens alertent et que ça ne suit pas.
Alors oui, vous avez raison. Je crois qu'il y a une l'ensemble du service public est touché par ça, c'est-à-dire... On n'a même plus besoin aujourd'hui de dire combien c'est important de faire ces urgences, combien c'est important de soigner ces adolescents, par exemple, ou ces bébés, hein, c'est aussi important. Mais en fait, il y a une sorte de reconnaissance de cet aspect-là. Mais après, on ne prend pas la mesure que
ça ne suit pas.
De la politique, de l'action nécessaire et le fait de le traduire et de le traduire concrètement. Et donc, sauf que vous voyez, pour les jeunes, C'est vrai, l'action est importante pour aujourd'hui, mais pour demain aussi, parce que ça va devenir des adultes. Il faut que ce soit des adultes heureux, des adultes actifs, des adultes qui ont envie de s'engager. Donc, cette action est une... Mais pareil, sur la question des urgences, c'est extrêmement important de le traduire.
Parce que c'est l'état de notre société. On va évidemment y revenir, Marie-Rose Moreau, mais on va passer à l'actualité de la semaine maintenant, comme tous les vendredis, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin. Cette semaine, quand le dérèglement climatique nous rattrape dans notre vie quotidienne et qu'il nous oblige à réagir.
Attention, canicule. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais.
C'est dur, hein ? C'est dur la vie, sans clim.
La chaleur va s'accentuer encore jeudi et vendredi pour atteindre souvent 37 à 42 degrés, un peu plus par endroit.
J'ai pris la décision de reporter les épreuves écrites du diplôme national du brevet.
Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui on peut pas circuler avec les vignettes critères 3 ?
On n'a pas le choix, c'est le boulot. Ouais.
Vous avez reçu des ordres ou
J'ai pas le choix. Ils sont prêts à payer l'amende. Hein.
C'est une mesure qui porte bien son nom. Elle va différencier ceux qui ont les moyens de se payer des voitures 0, 1 ou 2 critères et puis les autres.
Eh bien, nous y voilà. Quelle mesure, même impopulaire, prendre pour lutter contre le dérèglement climatique ? Cette semaine, le Haut Conseil pour le climat a estimé que la France devait faire plus. Corinne Le Quéré est climatologue et présidente de ce Haut Conseil mis en place par Emmanuel Macron.
Il faut que ça soit une priorité nationale dans toutes les politiques du gouvernement, dans tous les ministères du gouvernement français.
Nul n'est prophète en son pays, c'est bien connu. Alors c'est au G20, au Japon, qu'Emmanuel Macron s'est fait le chantre de l'écologie.
Si on ne parle pas de l'accord de Paris, et si pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est plus capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France.
Une volonté réaffirmée après des européennes qui donnent des ailes aux écologistes. Pour Yannick Jadot, quels que soient les scrutins à venir, fini le temps des renoncements.
À toutes ces élections, nous devons désormais assumer la conquête du pouvoir. Pas pour l'occuper, pour l'exercer.
Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est présenté dimanche devant les siens réunis en assemblée représentative pour la première fois depuis les européennes.
Je suis stupéfait.
L'occasion de dire son incompréhension face aux critiques qui le visent.
De voir que c'est à moi qu'on me demande de s'en aller. Je suis président de groupe à l'Assemblée nationale. Je suis d'ailleurs le seul élu par les autres dans le mouvement des Insoumis. Je le signale au passage parce que pour un dictateur, c'est quand même curieux.
Jean-Luc Mélenchon qui a mis un gilet jaune samedi pour aller manifester à Belfort où des milliers de personnes se sont rassemblées.
Est-ce que vous êtes prêts à dire stop au massacre de notre industrie par General Electric ?
On n'est pas allé au gilet jaune, mais là on vient.
Tous ensemble,
À Nantes, toujours aucune nouvelle du jeune homme qui pourrait être tombé dans la Loire, comme une douzaine d'autres fêtards que la police est venue déloger le soir de la fête de la musique.
Sans rêver, ils ont gazé de partout et la folie, la pagaille.
La police reconnaît avoir utilisé les grands moyens pour mettre fin à la fête.
Il y a des grenades de désencerclement, il y a des grenades lacrymogènes, il y a des tirs de LBD. On vient vraiment là de façon à leur dire coupez le son et puis fin de nuit, terminé.
La police des polices a été saisie de l'enquête.
Le plat du pied. Oh là là, c'est on le dit.
Ça, c'était dimanche soir, la délivrance pour l'équipe de France de football qui a fini par battre le Brésil après prolongation, mais ça n'a pas été simple. Alors ce soir, en quart de finale du Mondial, gare aux Américaines, prévient Nadia Ben-Mokhtar.
L'équipe américaine, c'est un rouleau compresseur, on va dire, notamment sur le plan athlétique. Ils ont surtout une capacité à écraser l'adversaire dans les duels, dans les courses.
Les Américaines tenantes du titre. Quel que soit le résultat, une certitude, en football aussi, la femme est l'avenir de l'homme.
À l'époque, il y avait personne qui regardait le foot féminin.
Elles ont toutes les cheveux courts. Hein. Enfin, tu crois réellement ce sont des filles ?
Et maintenant, en 2019, il y a un monde.
Tu ressens quoi ?
C'est inexplicable.
Quoi ? Ah merci les bleus, allez les bleus !
Bleus !
Et encore merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France en compagnie de la psychiatre Marie-Rose Moreau, directrice de la Maison de Solène. Est-ce qu'il y a un sujet, Marie-Rose Moreau, auquel vous souhaiteriez réagir ?
Bah oui, plusieurs, mais en commençant par les bleus féminines, je dois dire que cette question, le fait que les filles soient reconnues comme capables de non seulement de jouer, mais même de gagner, en tout cas d'emporter une adhésion collective, c'est quelque chose que les adolescents commentent énormément et qui les tire.
Ça sert de modèle.
Ça sert de modèle, mais ce qui est intéressant, c'est aussi bien pour les garçons. C'est-à-dire que les garçons aussi se laissent prendre par cette question. Et là, il y a quelque chose d'un engouement. On sait aussi l'importance du sport pour pour le bien-être des jeunes gens. Et je trouve que là, il y a quelque chose de collectif qui fait chaud au cœur des adolescents et moi.
Vous parlez du bien-être et vous dites dans le livre dont on parlait tout à l'heure, vous insistez sur le droit au bien-être.
Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très actif, le bien-être dans l'adolescence. C'est un droit, c'est-à-dire qu'on doit, chaque fois que l'on, par exemple, à l'école, on doit se demander comment augmenter le bien-être pour assumer nos fonctions de protection, pour assumer nos fonctions d'adulte. Et c'est effectivement un droit au sens où nous devons y réfléchir, nous devons l'augmenter, et les jeunes gens eux-mêmes doivent participer à cela pour être dans une ambiance qui leur permet de se développer et d'utiliser leurs compétences. Donc oui, c'est un droit au fond, c'est même un nouveau droit pour moi.
Voilà, c'est un nouveau droit et tout le monde doit en être collectivement responsable. Le reportage de la semaine va nous conduire à présent en Seine-Saint-Denis, un département que vous connaissez bien, Marie-Rose Moreau, vous y avez travaillé longtemps. Vendredi dernier, des élèves de première du lycée Jacques Feder d'Épinay-sur-Seine ont publié une tribune dans le journal Le Monde, une tribune intitulée « Sommes-nous moins français parce que nous vivons de l'autre côté du périphérique ?» Ils y ont décrit les conditions à peine croyables de leur établissement, toujours en travaux, allant jusqu'à se demander s'ils n'étaient pas moins français que les autres. Benjamin Illy les a rencontrés.
T'as vu ça ? Yes. Sacrément fier de vous, quoi.
Le titre de la tribune.
Sommes-nous moins français parce que nous vivons de l'autre côté du périphérique ?
Réponse ?
Bah non.
Voilà, pas besoin d'une tribune en fait. C'est tout le contraire, c'est leur victoire ce journal qui passe de main en main cette tribune publiée dans Le Monde.
J'ai jamais écrit quelque chose dans le journal. C'est la première fois, on est fiers, ouais.
C'est eux qui ont écrit et c'est incroyable.
Une prof qui reste anonyme comme ses élèves, 13 parmi les 1700 du lycée Jacques Feder. Elle contemple le travail accompli démarré en novembre. Il a fallu coucher sur le papier la colère, la frustration, les envies d'émancipation aussi d'une génération, moyenne d'âge 17 ans.
Concrètement, la vie dans ce lycée, ça ressemble à quoi ?
Les salles de cours, c'est dans des bâtiments préfabriqués. En été, il fait trop chaud, ça résonne beaucoup. Par exemple, si tu veux suivre le cours, il faut absolument te mettre tout devant, mais sachant qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde.
Vous êtes à combien par classe ?
35.
Au début de l'année, on nous autorisait à sortir, autorisait à rentrer chez nous pour faire nos besoins, parce que les toilettes étaient bouchées.
Tellement les travaux sont forts, quelquefois quand je rentre chez moi, je ferme les yeux et j'ai encore ces sons qui résonnent dans ma tête. C'est horrible.
On est en quelque sorte comme du bétail en fait. On est des animaux quoi.
Je sais pas si c'est drôle en fait.
Mais on en rigole aussi, non, que si vous voulez qu'on le fasse. On pleure. Déjà on est chanceux d'accéder à une éducation. Mais il y a des personnes qui ont aussi accès à la même éducation que nous, mais pas dans les mêmes conditions. Pourquoi ? On en parle dans notre tribune, pourquoi ?
En fait le truc c'est que c'est un souci d'égalité et c'est que... D'une anecdote, en fait, on a voulu partir sur un problème de fond qui est récurrent et qui a toujours été présent, en fait.
C'est l'égalité entre histoire et français. Dans les autres lycées parisiens, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de flaque d'eau qu'on doit traverser pour entrer dans une perme.
Nous aussi, on doit passer le bac. Nous aussi, on a un futur. Du coup, pourquoi ils n'ont rien préparé pour nous ?
Pour que vous puissiez réussir ?
Pour qu'on puisse réussir dans de bonnes conditions. Pourquoi on n'a pas la même chance que les autres ?
Professeur.
C'est quand même la relève. Elle est belle, elle est intelligente, elle a été capable d'écrire ça. Il faut l'entendre.
Alors la région nous dit, donc le service de presse, nous faisons le maximum pour réduire les perturbations et nous livrons progressivement d'ici 2021 les bâtiments rénovés.
Ça sera pas là en 2021. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une génération qui aura été gâchée en fait.
Ou alors une génération déterminée, prête à se battre, qui écrit des tribunes, qui veut se faire entendre et surtout qui vise les sommets.
Je compte devenir président de la République. Hein.
En venant du lycée
Jacques Feder.
Jacques Feder d'Épinay-sur-Seine. C'est dit hein ? Président de la République.
Votez pour moi, s'il vous plaît. Merci.
Voilà pour ce reportage de Benjamin Illy que vous avez écouté avec attention, Marie-Rose Moreau.
Eh oui, avec beaucoup d'attention, parce que cette question des mêmes conditions, ils le disent très bien, ils n'ont pas les mêmes conditions que les autres. Et d'une manière générale, tous les enfants qui vivent dans ces zones de retirement, de ces zones où il y a une grande diversité sociale, et d'ailleurs, ils emploient le mot « pauvreté » dans la tribune et ils emploient aussi le mot « fils et fille d'immigrés ». Ils n'ont pas les mêmes conditions, ils ont raison. Et pourtant, ils ont des envies et pourtant, ils bravent des difficultés. Et au fond, c'est la question du rapport au savoir, du rapport à la citoyenneté qui est posée. Et au contraire, on le sait, la diversité linguistique, la diversité culturelle, la diversité sociale, c'est une chance pour eux, mais c'est une chance pour les autres, pour constituer une société qui soit une société fraternelle et créative. Eh bien, sauf que au lieu de faire que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que les conditions minimales soient respectées, on se retrouve dans des situations où la base n'est pas respectée.
Parce que il faut la lire, cette tribune, hein. Ce qui est incroyable, c'est que ça part de conditions matérielles, a priori, mais ça va très loin. C'est comme s'ils considéraient que leur identité culturelle était remise en cause. C'est ce qu'ils disent dans cette tribune.
Leur identité tout court, au fond, parce que le fait qu'on leur reconnaisse pas le droit, on parlait de droit tout à l'heure, le droit d'être comme les autres, le droit d'utiliser ce qu'ils savent, et le droit d'apprendre et de se transformer, de faire partie de la société. Donc là, il y a quelque chose de très vrai.
Vous avez travaillé longtemps, vous, en Seine-Saint-Denis, l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Oui, bien sûr. Oui, j'ai travaillé une vingtaine d'années. Je consulte toujours, d'ailleurs, là-bas, le mercredi matin, parce que c'est là où j'ai appris l'importance de bien s'occuper de ces enfants. De ces enfants de migrants, de leur famille. Et effectivement, l'école, et on le dit dans notre livre, l'école joue un rôle très important pour ces enfants, comme pour tous les enfants, mais plus encore, parce que c'est une manière d'entrer, de faire partie de la société par la langue, par le savoir, par la réussite. Et donc là, il y a un enjeu majeur qui est un enjeu de constituer du commun à partir de cette diversité et au fond de faire une, ils le disent, hein, une prévention du lien collectif, une prévention que chacun se reconnaisse et que chacun puisse participer à ce lien-là.
Votre concept de psychiatrie transculturelle, on le retrouve dans ce texte,
hein? Ah ben oui, on retrouve tout à fait. Je l'ai découvert, mais ce texte, comme chacun dans le monde, mais c'est ils disent la même chose et que nous disons d'ailleurs dans le chapitre sur les vulnérabilités de ces situations, c'est que si on prend en compte cette diversité culturelle. Et sociale d'ailleurs, on va en faire quelque chose de bon pour chacun. Si on le prend pas en compte, eh bien là, on crée de la violence, de la discrimination, du doute et de la menace, en fait.
Mais ça, c'est parce que c'est pas pris en compte, parce que sinon, Marie-Rose Moreau, le métissage en soi, c'est pas une pathologie. À partir de quand qu'il y a un problème?
Mais il n'y a pas de problème avec le métissage. Prenons l'exemple de la langue très rapidement. Avoir deux langues, ou trois, ou quatre, c'est mieux qu'une seule. Dans l'absolu d'ailleurs, non seulement quand vous avez deux langues, vous avez un rapport à deux référents et à deux langues différentes, mais c'est plus que ça, puisque vous avez aussi des compétences augmentées pour passer d'une langue à l'autre. Donc, c'est une chance, on le sait partout, sauf que ne pas reconnaître que ces enfants ont plusieurs langues, eh bien à ce moment-là, on les met en difficulté et on leur permet pas d'accéder à la langue française dans les mêmes conditions que les autres.
Allez, maintenant on va écouter quelqu'un qui a plusieurs langues, justement. Arizona blues no more, Arizona rest no more. We want freedom to cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass the everlast Arizona blues. Bloody, bloody border no more. Arizona rest. Arizona blues, no more. Sagina retires. Arizona rest, no more, no more. Bloody suspicious. Border. Being detained, being searched, being arrested. Bloody border. Immigration laws, Arizona crows. Sagina retires. Immigration laws, Arizona crows, no more. Arizona blues no more.
suspicious. Being searched. Sanguinary dictate. No more, no more. Bloody, bloody border. Freedom to pass the everlast. Arizona blues, Arizona lose no more. Arizona rest no more. Maricopa blues no more. Arizona blues. Being suspicious, being searched, being detained no more. No more, no more, no more. Being arrested.
Bloody, bloody border.
Immigration laws, Arizona crows no more.
Bloody, bloody border.
Immigration laws, Arizona crows no more.
Bloody, bloody border.
Suspicious, no more being detained, no more being searched, being arrested,
bloody, bloody
no more.
Border. Bloody, bloody border, Manu Chao, choix musical de Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Une semaine en France avec Marie-Rose Moreau, avec qui on va revenir maintenant sur votre parcours, Marie-Rose Moreau, parce que c'est sûr que si vous êtes devenue une spécialiste de psychiatrie transculturelle, c'est sans doute parce que vous-même vous êtes venue d'ailleurs. Vous êtes née en Espagne en 1961. Vos parents ont décidé de partir pour un ailleurs qu'ils espéraient meilleur, c'est ça?
Oui, mais effectivement, je suis née en Castille et mes parents avaient l'idée que en France les enfants avaient un accès beaucoup plus facile au savoir et aux idées et que donc
alors que même n'avaient pas fait d'études.
Non, ils n'avaient pas ni appris à lire et à écrire, mais justement parce que c'était pas possible, parce que les conditions étaient de la guerre et de la post-guerre, et les conditions sociales. Et mon père rêvait de cette idée que ses enfants seraient docteurs au sens de ceux qui manient les idées et qui les font vivre et qui les transmettent.
Et l'école vous a permis d'accomplir son rêve. Un petit mot, donc vous avez grandi dans les Ardennes, Marie-Rose Moreau. Chez vous, on parlait espagnol, enfin castillan, c'est ça?
Espagnol, oui. Espagnol. Oui, castillan, voilà. Tout à fait.
On vous appelait Maria del Rosario à la maison et à l'école, on vous appelait Marie-Rose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé avec ce prénom? Qui a décidé de le franciser? Ça s'est fait comment?
Alors, je vais vous le raconter. Plein d'enfants de migrants ont cette mésaventure, qu'on leur change leur prénom ou qu'ils soient différents à l'intérieur, à l'extérieur de la maison. C'est pas grave, à condition que les enfants se sentent le même lorsqu'ils passent de la maison de dedans en dehors. Moi, j'avais un instituteur très Troisième République qui pensait que j'allais faire des grandes choses dans la vie et que il fallait que je porte un nom qui soit très facile à prononcer.
C'est bien vu quand même.
Et c'est comme cela que mon prénom s'est francisé en Marie-Rose. Mais aussi, j'ai toujours eu à l'école, et ça c'est extrêmement important, pour tous les enfants, des instituteurs, comme on disait à l'époque, des professeurs d'école, qui croyaient que la diversité était une chance de savoir supplémentaire, une chance de courage aussi, et qui avait un respect très important pour ceux qui avaient fait les voyages. Et ça, c'est extrêmement important pour les enfants de migrants, que l'on reconnaisse que c'est quelque chose qui fait du bien, et que c'est du courage, et que c'est pas on accueille les migrants parce qu'on peut pas faire autrement, ça fait du mal aux enfants.
En tout cas, le rêve de votre papa s'est réalisé, puisque vous êtes devenue médecin. Vous avez fait aussi des études de philosophie en même temps, Marie-Rose Moreau.
Oui.
C'est pas banal.
Non, mes frères et sœurs et moi, d'ailleurs, nous tous, nous avons fait des études multiples, mais alors pour ce qui me concerne, j'ai fait médecine parce que c'était le rêve de mon père, et j'ai fait philosophie parce que c'était mon rêve à moi, et en même temps, donc, et puis après, j'ai trouvé une manière de métisser et de faire une chance, et c'est comme ça, avec deux choses différentes, et c'est comme ça que j'ai fait de la psychiatrie de l'enfant et ensuite de la psychiatrie transculturelle.
Voilà, après avoir fait aussi de la médecine humanitaire, hein, j'ai vu que vous étiez engagée
avec Médecins Sans Frontières pendant très longtemps. Oui.
Vous avez fait
des missions
longtemps. Donc aujourd'hui, vous êtes à l'hôpital Cochin, vous dirigez la maison de Solène, vous vous occupez des adolescents. intéressant. Pour revenir à ce livre dont on parlait au tout début, pour le bien-être et la santé des jeunes, vous questionnez évidemment le rôle de l'école, mais aussi le rôle des familles. C'est pas simple pour des parents de repérer ce qui est grave ou pas grave chez un adolescent. Quel conseil vous pourriez leur donner là aujourd'hui, Marie-Rose Moreau ?
Alors oui, c'est vraiment dans le livre, il y a l'école, il y a les soins, il y a les parents, il y a tous ceux qui s'occupent des adolescents. Alors pour les parents
qui nous écoutent ce soir,
je l'espère, et qui effectivement, lorsqu'on est confronté à une souffrance de son adolescent, c'est pour moi une des dans les pires douleurs, je pense, pour les parents. C'est extrêmement difficile d'être parent, tout particulièrement d'adolescent. D'abord, faut croire dans les adolescents. Faut se dire que c'est une période complexe, mais qu'ils ont des possibilités, il faut les prendre au sérieux, il faut prendre y compris leurs rêves au sérieux. Il faut aussi accepter des moments de vulnérabilité, parce que presque tous les adolescents peuvent en avoir. Certains se perdent un peu dans ces... Mais quasiment tous en ont à des moments.
Et il faut leur faire confiance.
Il faut leur faire confiance. Et il faut aussi, lorsqu'ils ont ces moments de vulnérabilité, les aider à accéder à des soins. C'est pour ça que notre première proposition dans ce livre, qui a été donc proposée aux politiques et qui est maintenant en expérimentation, c'est quelque chose qui s'appelle aujourd'hui « Écoutez-moi », mais qui est l'idée que chaque adolescent, lorsqu'il va aller s'inscrire à l'école, il puisse avoir un répertoire avec les différentes possibilités de soins autour de lui et d'aide, leurs parents également, et qu'ils puissent y accéder gratuitement, et leurs parents encore une fois aussi, sur un temps donné. Alors pour l'instant, on avait dit une dizaine de séances.
C'était le fameux pass santé, ça.
Voilà, c'est le pass santé jeune qui s'appelle Écoutez-moi aujourd'hui. Il est expérimenté sous le concept d'Écoutez-moi. Mais donc, c'est cette idée d'un accès aux soins pour tous, précoce, rapide, non, qu'on sache que c'est possible, et qu'on donne aux adolescents la possibilité de transformer ces vulnérabilités en force, et que l'on donne aussi beaucoup de deuxième chance aux adolescents, parce que notre système éducatif leur en donne beaucoup, pas assez, trop peu. Et pareil, l'importance de la formation des enseignants à ces questions de qu'est-ce qu'un adolescent, de quoi il a besoin, et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une vulnérabilité qui se présente, sachant que l'école est un lieu très important pour ça.
Vous demandez notamment une permanence téléphonique pour tous les personnels des établissements scolaires, mais aussi les gens qui sont dans les associations sportives, etc., dans les loisirs, pour qu'effectivement ils aient des repères, ils aient des réponses aux questions qu'ils se posent eux-mêmes.
Et qu'on puisse agir tranquillement, sans avoir peur de stigmatiser cet adolescent, et qu'ensuite tous ces personnels soient capables de recueillir ces paroles de ces adolescents.
On va passer maintenant, Marie-Rose Moreau, parce que c'est la tradition dans cette émission le vendredi soir à 7h-10, aux bonnes ondes de Sandrine Houdin qui vient d'entrer dans ce studio. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Alors Sandrine, alors que le thermomètre s'affole et que la situation est plus difficile que jamais pour les sans-abri avec la chaleur, ce soir, vous nous présentez une sorte de SAMU social pour les animaux de ceux qui sont à la rue.
Ça se passe à Lyon, c'est unique en France, des étudiants vétérinaires qui soignent gratuitement les animaux des personnes sans domicile. Alors, essentiellement des chiens qui souffrent de la canicule par exemple, comme en ce moment, des maladies ou qui ont simplement besoin d'un bon petit coup d'antiparasitaire, en tout cas des chiens qu'on ne voit jamais dans les cabinets de véto.
Et comment vont-ils à leur rencontre alors ?
Dans les accueils de jour ou les centres d'hébergement, ils maraudent aussi dans l'agglomération. Ils font tout ça en camionnette au minimum une fois par semaine et bien sûr bénévolement.
Des étudiants qui ne sont par définition pas encore diplômés.
Pas encore, c'est pour ça qu'ils sont toujours accompagnés d'un enseignant de l'école, pas question bien sûr pour eux de partir tout seul.
Alors vous avez suivi Sandrine, deux étudiantes, Anna et Clarisse. Vous les avez retrouvées juste avant le départ pour le centre d'hébergement sur leur campus à Marcy-l'Étoile.
La camionnette est garée sur le parking, plus qu'à charger.
Du coup, on a ce qui est chaud, on a senior, et là c'est l'hypoallergénique du coup.
Ouais. Anna, ce sac, qu'est-ce que c'est ?
Toutes nos croquettes qu'on essaie de ramener sur nos sorties pour distribuer des croquettes.
Et sinon, alors pour les soins ?
Pour les soins, donc on a plusieurs mallettes, pansements, compresses, ensuite pinces au cas où on ait besoin de retirer des points, des choses comme ça. On a du matériel pour regarder dans les oreilles et les yeux aussi. Ça, c'est les antiparasitaires. Et on a une dernière mallette. Tous les médicaments. Parce qu'on a pas mal de vieux chiens qui ont de l'arthrose, donc des anti-inflammatoires, des corticoïdes, enfin tout ce qu'il faut pour soigner les pathologies courantes.
Et super important, la glacière.
Donc là, bah, les vaccins pour les maladies basiques du chien. Vaccins pour les chats aussi. Mais là, normalement, aujourd'hui, on n'a pas de chat.
105 rue Villon.
Sinon, regarde sur Google Maps.
Direction aujourd'hui le centre d'hébergement, la maison de Rodolphe. Le prof est déjà sur place.
Ça fait combien de temps qu'il boite?
Là, ça fait depuis qu'il est mis à pleuvoir, là.
Et ça, il l'avait jamais fait avant?
Il le fait à chaque fois quand il pleut, quoi.
On le fait marcher un petit coup?
Ouais.
Je t'aime un peu.
Quel âge a-t-il?
2 ans, il va voir là.
Comment vous trouvez cet assaut d'étudiants?
C'est bien, parce que là, des trucs comme ça, on paierait super cher. Hein, parce que moi, je le faisais au début. Le mec, il me demandait 150 euros, hein, juste pour une vérification de chien. Ça m'a niqué tout mon RSA, quoi, antiquement. Bon, c'est pas une grosse chose.
Comment vous l'appelez?
Craps.
C'est bien ma poulette.
C'est quoi son nom?
Lina.
Lina, d'accord.
Les consultations s'enchaînent.
Stop.
Allez, Mac.
Couché.
Regardez, les poils, ils partent super facilement, en fait.
Là, il y a une petite puce, vous voyez?
Voilà, c'est quoi
non,
ça?
Mais c'est pas grave, ça arrive, vous inquiétez pas.
Manu s'inquiète toujours très rapidement pour ces deux chiens.
C'est grâce un peu à eux, en fait, que j'ai pu sortir un peu de la rue, me reprendre en main.
Ça veut dire quoi, ça?
Le fait de s'occuper d'une vie, quoi, c'est de l'amour. Parce qu'on s'imagine pas comme ça. Mais vous savez qu'on est tout seul dehors, qu'on n'a pas forcément sur qui compter. Puis ça tient chaud, la nuit. Essayez un jour, vous verrez.
Monsieur, je vais lui faire la petite piqûre pour lui mettre la puce.
Oui.
Le directeur du centre passe toujours une tête en soignant les chiens, dit-il. En fait, il soigne les maîtres.
Il y a un lien très fort entre le chien et son maître. Quand on les entend parler du chien, ils parlent de leur fille ou de leur fils.
Ah oui,
nous on voit un chien, on ne comprend pas. Quand on n'est pas à la rue, on ne comprend pas. Certaines fois, c'est la seule relation qui leur reste. C'est la seule relation fidèle qui leur reste. Quand on observe ça, on se rend compte de la violence qu'on a pu renvoyer à ces personnes lorsqu'elles venaient dans nos établissements où on n'accueillait pas des chiens. Parce qu'on leur dit, séparez-vous de votre chien, on peut vous trouver une place.
Je suis désolé.
Oh là,
c'est tout bon.
T'auras intérêt de lui payer un coup.
On va lui payer une petite croquette quand même après.
Ah, j'espère, son biscuit, elle l'a mérité.
Votre prénom, monsieur?
José Liton. Je viens d'Espagne.
Et là, vous vivez où alors là?
Juste un peu plus loin sur un terrain que j'ai réussi à braquer. Enfin, braquer.
Oui, j'ai compris.
À détourner.
Vous vivez à combien là?
On est 2 avec nos chiens. Elle, c'est Clara et Clarisse, c'est ma petite fille.
Petite fille?
Oui. On est SDF. C'est nos enfants. Presque notre sang. C'est pour ça qu'on fait la marche.
C'est-à-dire?
Pour essayer de lui rapporter à manger tous les jours.
Ah oui, c'est elle avant vous?
Toujours. Elle a mangé un poulet dimanche.
Un poulet?
À 8 euros. Mon poulet qu'elle a mangé. Du coup, ceinture.
Si jamais il y a un souci pendant l'accouchement qu'elle a plus de force, vous lui donnez quelque chose avec du sucre.
D'accord. C'est bien.
C'est bon.
Et elle a quel âge? Elle a 4 ans. Quand je suis malheureux que je pleure, elle pose sa tête.
Je vous fais pleurer là?
Oui. Un petit peu. C'est tout,
Je vous ai pas demandé ce que vous pensiez de ce que faisaient tous ces étudiants.
C'est énorme pour nous, vous imaginez même pas. Suffit juste de les regarder. Vous voyez quoi? Une tête d'ange.
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous?
Bah, ce côté social hyper fort. Il y a souvent cette image du veto qui prend de l'argent. Les vétos, c'est des voleurs. Donc c'est bien que les gens voient aussi qu'on ait une profession qui aide les gens aussi.
On a eu une personne qui nous disait que, qu'avant, elle se shootait quasiment tous les jours. Et du jour au lendemain, en ayant eu un chiot, elle se shootait plus. Et parce qu'il fallait qu'elle en prenne soin, quoi. En fait, ça change toute leur vie, quoi.
C'est beau à voir, quoi.
Un grand merci Sandrine pour ce reportage. Mille fois merci Marie-Rose Moreau. Une réaction peut-être?
Oui, c'est beau à voir, elle disait à la fin, mais c'est vrai, c'est la force des liens. Et par ailleurs, en ce qui concerne les jeunes gens, c'est la force de leurs engagements quand même. C'est des jeunes étudiants. Et on sait aussi que sur la question de la santé, de la prévention de la santé des jeunes gens, les choses qui se passent en vertical, les choses collectives, les choses entre pairs, ça marche beaucoup. Mais je trouve que la qualité d'engagement de ces jeunes gens, elle est extraordinaire. Ils comprennent tout de suite et ce qui se passe et ils agissent. Et ça fait partie de la santé des jeunes gens aussi.
Marie-Rose Moreau, un très grand merci d'être venue ce soir. Je renvoie à ce livre dont on a parlé ce soir, pour le bien-être et la santé des jeunes. Il y a beaucoup de choses dedans. On n'a pas eu le temps de parler de l'école notamment. C'est très important. L'école anxiogène en France. La question de l'évaluation permanente qui pose problème à beaucoup de jeunes. Ça fait partie des raisons pour lesquelles la jeunesse de France va... Enfin, une partie de la jeunesse de France ne va pas très bien.
Bah oui, ce qui se passe à l'école est fondamental. Et en termes de formation, en termes de programme, en termes de méthode, et tout particulièrement la manière dont on voit ces élèves, qui sont aussi des enfants et des adolescents, avec des besoins. Et donc là, nos propositions, nos 10 propositions, elles sont centrées là-dessus, sur l'école, et sur l'importance de ce lieu pour eux.
Voilà, c'est donc à lire dans cet ouvrage. Juste une petite question. Avec tout ce que vous faites, vous avez encore le temps d'écrire des livres? Marie-Rose Moreau, les journées n'ont que 24 heures.
J'adore écrire, mais celui-là, je l'ai écrit, c'est collectif, oui, et c'est avec Jean-Louis Brison. Mais j'adore écrire. L'écriture est un engagement aussi.
Voilà, donc ça s'appelle Pour le bien-être et la santé des jeunes chez Odile Jacob. Il y a bien d'autres livres pour les parents qui nous écoutent ce soir. Quoi, on va citer peut-être Avec nos ados, Osons être parents, ça c'est chez Bayard.
Chez Bayard.
Voilà. Des conseils de lecture pour les ados aussi, j'ai découvert ça sur le site de la maison de Solène. On trouve 5 conseils pour passer de bonnes vacances avec ses parents. C'est pas inutile en deux mots, puisque bon, allez, c'est pratiquement l'été là, dites-nous. Le conseil principal pour passer les bonnes vacances avec ses parents quand on est ado, ça fait peur à des parents.
Les vacances. Effectivement, vous retrouvez sur le site de la maison de Solène, c'est une adolescente qui les a écrits. C'est premièrement de ne pas être seul avec ses parents, d'avoir d'autres personnes que ses parents et soi, et puis de faire des choses qu'on fait pas d'habitude, et de modifier les règles habituelles, et d'accepter que les adolescents rêvent et soient à leur rythme. Voilà, ça fait partie des conseils.
Voilà, ça c'est conseil pour les adolescents, mais pour les parents aussi, je vous reconnais bien là. Merci mille fois Marie-Rose Moreau d'être venue ce soir sur France Inter. Dans un instant, le journal de Sébastien Paour à 19h20. Le téléphone sonne qui sera consacré au succès des sites de revente en ligne, à la folie des vide-greniers, des braderies et autres marchés de la seconde main. Visiblement, nous ne consommons plus tout à fait de la même façon. Alors pour en parler, le numéro c'est toujours le même. Le 01 45 24 7000.